Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci d'être là depuis le début si vous êtes arrivé à 9h01. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial survie. Pas de Bertrand Chameroy qu'on embrasse et qui va vite revenir ici dans l'émission. Notre invité, c'est le compositeur et pianiste canadien Chilly Gonzalez pour son album de reprise de chansons de Noël, Very Chilly Christmas. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, redécouverte d'un des romans cultes d'Alexandre Dumas réédité pour Noël. Ce sera avec Nicolas Caro, notre monsieur livre. Et puis on va découvrir ou redécouvrir le spectacle de Norman, youtubeur immensément populaire, avec Louise Bernard. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Eva, à quoi va ressembler notre soirée devant nos écrans? Est-ce qu'un thème se dégage des programmes que vous avez repérés?
Oui, alors ça tient en un verbe, survivre. Un verbe qui se conjugue d'abord au passé sur Histoire TV, avec les deux premiers volets d'un film en 6 parties intitulé Esclave, qui est porté par la présence du comédien Samuel Lee Jackson. À quoi ressemblait le commerce négrier pendant 4 siècles? Comment 2 millions d'hommes et de femmes ont péri en mer pendant cet exode forcé? Beaucoup de questions donc, et quelques réponses, notamment grâce à l'exploration des épaves des navires négriers, des épaves dans lesquelles on a retrouvé notamment un objet.
Ça c'est quoi?
Un extracteur de dents.
Je me souviens à l'école, on nous racontait que certains esclaves faisaient la grève de la faim. Alors, on leur arrachait les dents pour pouvoir les nourrir de force. C'est une image terrifiante de me dire que mes ancêtres pouvaient avoir les dents arrachées pour être nourris de force, parce qu'ils devaient être robustes pour être vendus.
Et alors, pendant que les plongées se multiplient dans l'océan, le comédien, lui, va découvrir le Gabon, la terre de ses ancêtres. À bord d'une barque, on le retrouve naviguant entre de petites îles où étaient justement entassés ses esclaves.
Et après, ils allaient sur les îles à côté, transportés. Il n'y avait rien à manger. La seule nourriture, c'était les huîtres qu'on trouve à l'intérieur.
On peut voir des millions de coquilles d'huîtres entassées autour des îles sur 4 mètres de haut.
On croit que c'est le sol, mais en réalité, c'est des millions de coquilles d'huîtres empilées. Parce que c'est la seule nourriture que les prisonniers avaient pendant leur détention ici.
Oui, comme un dernier repas avant de monter dans le bateau pour aller jusqu'au Brésil.
C'est un documentaire passionnant, Philippe, qui allie information et émotion et donne de la visibilité à cette histoire. Et puis le verbe survivre se conjugue aussi au futur sur Ciné Plus Famise avec le film de Jean-Michel Bertrand qui est intitulé « Marche avec les loups ». Comment faire pour que l'homme et le loup cohabitent dans les Alpes notamment? Parce qu'il s'agit bien d'une question de survie pour cette espèce. Le réalisateur a voulu suivre pendant plus d'un an un jeune loup. Encore, faut-il le trouver, ce jeune loup. Et qu'il soit d'accord, exactement. Alors Jean-Michel Bertrand a une idée, il va installer des caméras et dès qu'une bête passe devant, il va recevoir une notification sur son portable. On est en pleine nuit, Jean-Michel Bertrand s'est réfugié dans une grotte et tout à coup, il entend ça.
Oh la vache, c'est un jeune. Ah, il est tout seul au col. Bête. Ah, demain, j'y vais.
C'est donc génial. Le loup passe devant la caméra comme ça. C'est le début d'un périple incroyable à travers les Alpes. Le réalisateur passe des zones totalement perdues et désertées par les hommes aux villages et aux villes où justement s'est approché le loup.
Rares sont les jeunes loups en dispersion qui arriveront vivants au bout du voyage. Ils sont très vulnérables dans un milieu urbanisé qu'ils ne connaissent pas. Les routes sont meurtrières. Ils ont du mal à chasser seuls et à trouver de la nourriture. Ils sont vulnérables, prennent des risques en s'approchant des troupeaux et des maisons. Ces incursions, avérées ou pas, déclenchent chez certains tensions et polémiques. Avec le retour du loup, la peur du sauvage ressurgit.
Alors il parle tout doucement Jean-Michel Bertrand comme s'il ne voulait pas effrayer le loup qui serait derrière lui. Le film a été très mal accueilli par ceux qui s'opposent évidemment à la présence du loup. Plusieurs projections notamment ont été interrompues. Chacun se fera son avis. Reste que le documentaire possède plusieurs qualités. D'abord il pose les bonnes questions. Ensuite c'est vraiment une ode à la beauté de la nature avec des plans qui filment à la fois l'immensité des espaces et puis l'infiniment petit comme ces abeilles ou ces fourmis. Et puis surtout à travers cette quête du loup, le réalisateur, randonneur de l'extrême, partage son émerveillement et sa passion pour cet environnement. Et puis Philippe, le verbe survivre se conjugue au présent. Ça c'est sur France 3 avec le documentaire De chaque instant, narrant le quotidien d'élèves infirmiers. Vous allez l'entendre, l'un d'entre eux pique son premier patient et les autres font part de leur questionnement.
Je sers de cobaye, non? Ou c'est la...
Mais vous en faites pas.
Je suis pas le premier.
Hein?
Je suis pas le premier.
Vous êtes mon premier.
Tous les jours il y a quelque chose de différent, tous les jours il y avait des urgences, tous les jours il fallait s'attendre à quelque chose.
Il y a des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour pas faire de bêtises.
Oui, il ne faut jamais être le premier.
Non, il ne faut pas le dire. Si c'est le premier, la première piqûre, il ne faut pas le dire au malade.
Il n'osait pas mentir. Alors, il faut survivre dans le monde hospitalier d'aujourd'hui, qui manque cruellement de moyens. Il faut survivre aux cadences infernales, encaisser les coups de blues. Nicolas Philibert nous avait déjà enchanté avec Être et Avoir, le quotidien d'enfants dans une école de campagne. Il récidive avec ce film Empreint d'humanité. Et je récapitule votre soirée. Esclave, c'est sur Histoire TV à 20h50. Marche avec les loups est programmée à 22h10 sur Ciné plus Famise. Et de chaque instant est à voir sur France 3 à 22h55.
Merci beaucoup Eva Rock. À demain. Un instant, notre invité, c'est le compositeur et pianiste incomparable Chilly Gonzalez. Juste avant son arrivée, on écoute Gaëtan Roussel.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Chilly Gonzalez.
Bonjour.
Je suis très content de vous rencontrer, je vous écoute depuis des années. C'est pas facile de vous résumer, vous êtes pianiste, vous êtes musicien, vous êtes aussi un personnage. Vous vous décrivez parfois comme un génie, mais beaucoup le pensent vraiment. Vous étiez encore hier à la télé en direct, sur la 5, en pantoufles et en robe de chambre. C'était une autre fois, vous avez battu le record du concert le plus long du monde. 27h, 3 minutes, 44 secondes sur le piano, avec toujours au moins 10 spectateurs dans la salle. Vous êtes un virtuose, et après avoir lutté pour cela, vous rejetez désormais le terme. Vous avez travaillé avec Daft Punk, avec Feist ou encore Jarvis Cocker. Et là, vous revenez pour un nouvel album qui s'appelle A Very Chilly Christmas, un disque de Noël, dans la plus grande tradition, mais pas dans la plus grande tradition non plus. C'était quoi l'idée de ce disque ?
Ben, c'était de faire l'album que je souhaite trouver tous les Noëls, que je ne trouve pas. Un album plus intimiste, plus ludique et surtout un peu plus mélancolique.
Ouais.
Ça fait 3 décennies que je me retrouve tous les Noëls autour du piano à faire un sing-along. Ça veut dire que tout le monde est là, ils ont leur bouteille de bière qui sert comme microphone un peu, ouais. Ersatz, et tout le monde chante.
Ouais.
Ça, c'est la signification de Noël pour moi. Mais depuis, je vois toutes ces chansons utilisées pour des pubs, utilisées pour des albums un peu cyniques, des plus gros chanteurs.
Parce que ça vend.
Et je me suis dit, il faut peut-être que j'enregistre en 2020, surtout en printemps. Je me suis dit, peut-être Noël va être un peu différent en 2020, pour des raisons évidentes. Donc je me suis mis à enregistrer peu à peu. Et finalement, j'ai décidé de sortir cet album pour offrir un Noël un peu différent, avec des émotions plus complexes et plus personnelles.
Alors on va retrouver des airs qu'on connaît, mais pas forcément des harmonies, parce qu'une certaine manière, vous tournez le dos à la tradition. Ce sont des chansons immémorielles, mais on ne sait pas qui les a composées, mais vous voulez jouer en mineur. Alors dit comme ça, ça paraît étrange pour qui n'est pas musicien, vous allez entendre O Tannenbaum, mon beau sapin. Également des choses qu'on entend très rarement, sauf peut-être chez Keith Jarrett ou je sais plus le nom qui m'échappe, Glenn Gould. On entend la respiration, on entend les touches, on entend même parfois le fauteuil qui grince un peu. Vous laissez tout ça dans la bande, vous ?
Oui, parce que il faut, pour moi, faire de la musique comme si j'étais à côté de vous, ouais. Même sur scène, même si je me retrouve à Philharmonie de Paris. Je suis en pantoufles et robe de chambre parce qu'il faut que je transforme chaque endroit un endroit confort.
Mais pourquoi vous nettoyez pas les sons ? Je vous le reproche pas, mais pourquoi vous nettoyez pas les sons comme les autres ? Quand on écoute de la musique comme ça, classique, joue au piano, c'est millimétré, c'est orthodoxe, il n'y a pas un poil qui dépasse.
Parce que je veux représenter une réalité. Pareil avec mon discours sur scène, ça veut dire qu'à un moment, je n'ai pas envie de me présenter comme quelqu'un de parfait. J'ai envie que si le concert, par exemple, passe dans une humeur un peu bizarre, des fois on monte sur scène et c'est un peu maladroit, et ben j'utilise ça pour le show. J'aime bien provoquer les gens sur scène, j'aime bien transgresser des fois la conduite du performeur pour pouvoir après avoir de rédemption. Donc je constate toujours que je suis un être humain. Il y a du majeur, il y a du mineur, il y a du dissonance.
Ouais.
Et puis on espère du résolution, mais pas toujours.
On va entendre un autre extrait, Jingle Bells, en français c'est Vive le vent. Là aussi, on entend la mélancolie. Ça vous déprime les chants de Noël et même Noël tout court?
Ben, en même temps, le mineur peut rajouter un côté un peu klezmer, un peu Moyen-Orient, un peu plus désert, on peut dire. Moi, j'aime bien.
Non, mais il y a des gens que Noël déprime et il y a des gens, au contraire, que Noël met en joie. Mais il y a des gens qui redoutent le moment de Noël.
Bien sûr, j'ai fait cet album un peu. Oui, ben, je sens toujours ce gouffre entre le rêve qui nous est vendu à Noël, de tout va bien, majeur, voilà, le côté festif un peu forcé, même le rêve capitalisme de consommer pour être heureux. Tout cela joue un rôle pour que les gens aient envie de résister. J'ai des amis qui ne supportent pas le Noël. Ouais. Moi, je crois qu'il faut pas. C'est un choix faux de dire qu'il faut absolument subir à ça ou bien résister. Je crois qu'on puisse avoir un cocktail complexe d'émotions à Noël.
Parmi les cadeaux de Noël capitalistiques, parmi les compiles, parmi les singles, il y a Mariah Carey, All I Want for Christmas. On va entendre votre version à vous. Accords d'une grande complexité. C'est pas un do, un mi, un sol. Et même le groupe Wham, vous lui tordez le cou. Wham, le premier groupe de George Michael. Et votre piano sonne plus comme un piano, c'est presque un clavecin.
Ben, il y a un clavecin derrière, il faut le dire.
Bien sûr.
Je crois que pour ces deux morceaux pop, qui sont vraiment les seuls nouveaux vrais classiques de Noël, ben, quand je les fais en sing-along, je vois les gens, ils y vont, c'est génial. Donc j'essaie de faire des arrangements divorcés de toutes les références qu'on puisse avoir de Wham et de Mariah Carey, où c'est très produit, il y a les voix. Dans le cas de Wham, il y a même les pulls après-ski du clip, les boules de neige et tout ça. Je me suis dit, je vais faire The Last Christmas, qui est un morceau de pop, comme si c'était un morceau de folklore, presque. Ouais. De rapprocher un peu les cantiques et les morceaux pop, parce qu'ils sont tous pareils dans leur fonction sociale de rassembler les gens. Ce qui est génial avec musique de Noël, c'est une des dernières connexions qu'on a avec une culture plus collective. Avant qu'il y ait l'individuel, l'industrie du disque, la prétence artistique, il y avait les cantiques.
Elle n'a pas de reine, mais c'est une reine. Elle est sur son traîneau, elle nous rejoint, Hélène Manarino.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Chil Gonzalez, je vous présente quelqu'un qui adore les chansons de Noël. C'est je ne trahis pas un secret, Hélène.
Pas du tout, j'aime les chansons de Noël, les téléfilms de Noël.
Hélène Manarino, bonjour, bienvenue.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Chil Gonzalez.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, votre nom de naissance, Jason Beck, mais votre surnom, Wolf, vous vous faisiez appeler comme ça quand vous avez déménagé à Berlin, à tel point que quand vous avez pris le nom Chil Gonzalez, beaucoup de gens pensaient que Wolf était votre vrai prénom. Alors restons sur Chil Gonzalez, une vie de musique, de piano, même si vous avez connu quelques jobs étudiants, vous avez travaillé dans un journal, dans un bureau d'avocat, mais la musique est venue avec votre premier groupe, Newton Talks, puis il y a eu Son, fils en anglais.
C'est ça ?
Oui.
Parce que l'accent d'Hélène, je me méfie toujours.
Bah, je vous remercie. Thank you. Des groupes.
La preuve.
Des groupes dont vous faisiez partie avec votre frère Christophe, lui aussi dans la musique. Bref, une affaire de famille. Oui, votre passion, vous la partagiez avec votre sœur. Vous lui demandiez de jouer de la batterie sur l'oreiller, notamment sur une chanson appelée Cochon Nain. en français. Et puis, avec votre sœur, oui.
Attends, ça faisait comment, cochon nain?
Ça s'appelait My Pet Pig.
J'ai traduit. Voilà.
I was walking down the street. Je ne sais pas.
Il faut faire la batterie.
Ça partait bien, dis donc. Hein.
C'était il y a très longtemps, quand même.
Et puis, le refrain, c'était des bruits onomatopées de cochon. Le refrain, c'était en gros. Bon, j'avais 11 ans.
Oui, c'est bien, mais il y a des gens qui font ça maintenant encore. Hein.
Et puis, avec votre sœur, vous faisiez aussi votre jogging ensemble. Vous partagez les écouteurs de votre Walkman jaune pour écouter ça. Est-ce que vous vous souvenez, Blue Highway, Billy Idol?
Oui, ben, Billy Idol, je crois que toujours, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié.
Ouais.
Mais il avait quelque chose de
une coupe de cheveux?
Ben, il avait la coupe de cheveux. Mais disons que sa sophistication musicale était cachée, comme c'était un entertainer de pop. Mais les chansons, si on les joue au piano, comme Last Christmas, ouais, divorcées de toutes leurs références, un peu cheesy, fromageux, comme vous dites en français, ben on se rend compte que Billy Idol, c'est vraiment un musicien de qualité.
Il vous donnait envie de courir, justement. Alors, des goûts variés avec aussi Madonna, les Bee Gees, pendant votre enfance. Mais votre grand-père répétait souvent « chacun ses goûts ». Et il vous le disait par le biais d'une expression latine, « de gustibus non est disputandem ». Il vous répétait ça tout le temps.
Ben oui, et je viens d'écrire un livre avec exactement ce sujet.
Exactement, voilà. Chez Flammarion.
Oui.
Alors, concernant vos goûts, votre père a tenté, comme avec tous ses enfants, de vous faire partager sa passion pour Wagner. Il vous a emmené voir un opéra en Allemagne, mais vous vous êtes endormi. Et oui, vous étiez adolescent, mais aujourd'hui, dès que vous êtes proche d'un piano, vous jouez quelques notes d'un opéra de Wagner. Une belle façon de mettre à l'honneur cette belle relation père-fils. Mais Chili Gonzalez, dans votre playlist idéale, il y a surtout une chanteuse sur qui vous avez même écrit un livre. La chanteuse Enya, évidemment. Alors la musique, mais pas que. Joueur de jeux de société aussi, surtout le Scrabble. La magie opère avec vos notes, mais la magie vous a toujours passionné. Il y avait souvent des tours de magie à vos anniversaires, petits. Alors le sport, non. Enfant, des week-ends au ski étaient souvent organisés, mais pour votre première descente, vous avez hurlé de souffrance. Et oui, il faut le dire. Chili Gonzalez, vous avez été aussi un enfant rebelle, notamment avec les chariots de supermarché, que vous sortiez du magasin pour les lancer contre des portes dans la rue à l'âge de 8 ans.
Et là, il me regarde et il se dit, mais comment elle sait ça? C'est ça, hein?
C'est ça.
Tout est vrai, tout ce que dit Hélène est vrai.
Tout est vrai.
Toujours.
Rebelle, ça se voyait aussi dans le rangement de votre chambre, souvent en désordre, il faut le dire, vous n'aimez pas trop le ménage, mais rebelle avec cette envie de bousculer les idées, les codes, donner votre avis, inventer des mots, des expressions aussi, si je vous dis « Ogliba ».
Oh God.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ogliba, c'était un, ben, c'est du nonsense qu'avec mon frère, vous avez parlé à mon frère, je crois, non?
Je ne vous dis pas du tout.
Et on, comme plein d'enfants, on avait un petit langage secret quand même. Et Ogliba, c'était plus de l'exubérance. Ogliba!
Alors, on va continuer, Ogliba. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe?
Je le dis toujours quand je fais l'amour, hein.
Très bien. On m'a pas raconté ça, mais vous êtes au courant de tout ce qu'il se passe en politique. Chili Gonzalez, vous avez même créé un groupe WhatsApp nommé Election Day Canada Boys, où vous commentiez tous les résultats de l'élection américaine. Alors vous nous emmenez dans votre musique, dans votre vaste programme, inattendu parfois, votre plus beau discours que beaucoup ne se lasseront jamais d'écouter.
Merci beaucoup. Hélène Manarino, une petite réaction? Je vais la faire pour vous. Ogliba, merci beaucoup Hélène Manarino. À demain, dans un instant, notre premier indispensable, c'est Nicolas Carreau qui va nous faire redécouvrir un roman culte réédité pour Noël. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Chili Gonzalez, incomparable pianiste, compositeur, musicien. Vous dites que vous n'êtes pas un pianiste, vous êtes un musicien dont il se trouve qu'il joue du piano. Vous avez écrit un livre qui est sorti en octobre, Plaisir non coupable. C'est entre parenthèses, les non coupables, c'est chez Flammarion. Les plaisirs non coupables, on traduit ça en anglais, Guilty Pleasures. C'est d'aimer toutes les musiques et pas seulement la meilleure. C'est ça l'idée.
Ben, l'idée, c'est qu'on a un goût enfantin qui est involontaire, où on peut faire confiance, je crois. Et plus tard, en tant qu'adolescent, on fait des choix plus intellectualisés. On décide d'aimer quelque chose pour appartenir à un groupe social ou pour nous différencier de, je sais pas, notre frangin, par exemple, dans mon cas. Et je trouve que il y a un petit gouffre entre les deux. Ça s'appelle le guilty pleasure. Ça veut dire qu'on aime. On a ce truc involontaire, le chair de poule, par exemple. Mais on dit « je ne devrais pas aimer ». Donc on crée ce troisième catégorie pour notre goût. On dit que c'est interdit. Et je crois qu'il faut se libérer de tout ça. Moi, j'ai fait plein de faux chemins avec mon goût. J'ai tombé dans des pièges de virtuosité, de vouloir impressionner les gens avec ma musique au lieu de
jouer le plus vite possible. Connecter avec eux. Gens qui adorent ça. Il y a des prétendument amateurs, des prétendus amateurs qui adorent voir que le pianiste mette des notes partout.
Ouais, mais les dieux de la musique ne sourient pas sur celle-là.
Ils n'aiment pas ça.
Et j'ai compensé dans l'autre direction. J'ai fait semblant d'être un indie rocker parce que j'ai vu que la virtuosité est un peu interdite dans la communauté de musiciens au Canada. Et donc, dans les deux sens, j'étais pas vraiment moi-même. Ce que j'aime, en fait, c'est de la musique assez rassurante, maternelle, féminine, comme Enya, comme Lana Del Rey, Beach House, Julie Cruz ou bien Feist, ma petite sœur musicale avec qui je collabore toujours. Qui d'ailleurs a fait une chanson originale sur mon album de Noël.
Ouais.
Et je sais, c'est lié à mon enfance, le manque de berceuse que...
Non mais je vous interromps tout de suite, Face, le premier album dont j'ai découvert que c'est vous qui l'aviez produit et réalisé, c'est ben vraiment, ça, c'est excellent.
On a une vingtaine d'années de collaboration.
C'est excellent, c'est pas la honte, c'est pas comme dire qu'on aime René Lataupe.
Non, mais je veux juste dire que je comprends pourquoi j'ai mes propres goûts et j'ai pas de honte du tout. Je suis libéré de tout cela. J'aime ce que j'aime et je veux encourager les autres de demander dans leur goût qu'est-ce qui est un goût naturel, enfantin, involontaire et qu'est-ce qui est un goût où on se dit bon, tout le monde sur Twitter dit que je devrais aimer Frank Ocean, donc sans doute je vais dire que j'aime Frank Ocean. Mais si vous aimez pas Frank Ocean, il faut pas avoir honte de le dire non plus. Donc c'est de dire ce qu'on aime, mais aussi important de dire ce qu'on aime pas. Il y a de l'énergie à rejeter quelque chose aussi.
Dans la critique littéraire française, il y a un terme pour dire qu'un livre est passionnant et qu'on tourne les pages. On dit page-turner et c'est péjoratif. Ça veut dire, tu vois, ce livre, c'est tellement vulgaire qu'on tourne les pages. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Vous avez vu l'enchaînement ?
Oh, ouais, magnifique.
Vous aimez les page-turner ?
J'adore les page-turner.
Et justement, vous
c'est
arrivez...
C'est pas forcément péjoratif. Hein.
Quand même, quand vous lisez ça dans Le Monde ou dans Les Inrocks ou dans Libé, c'est péjoratif.
Bah là, par exemple, le Goncourt, on a dit c'est un page-turner, mais d'une qualité littéraire incroyable.
Bah, tout est dans le mais. Ça prouvient que c'est péjoratif. Bah,
sinon, on aurait excuse-moi, mais les meilleures choses existent sur deux modes. Ça veut dire qu'ils ont un cœur authentique, intellectuel, quelque chose de qualité. Mais si on rajoute ce côté page-turner ou un morceau qui est facile à écouter, tant fucking mieux.
Tant fucking mieux. Ce matin, Nicolas, vous nous parlez d'un jeune auteur qui débute.
Un certain Alexandre Dumas. Il est mort il y a 150 ans, presque jour pour jour. C'était le 5 décembre 1870. À cette occasion, les éditions Omnibus publient Le Comte de Monte Cristo, en voilà un de page-turner,
voilà.
Mais dans une version cadeau de Noël. Regardez-moi ça, grand format, avec un coffret et tout. Et surtout, les gravures d'époque d'Édouard Rioux, c'était très courant au 19e siècle. Le roman a été écrit en 1844. Claude Aziza, spécialiste de Dumas, a collaboré à cette édition.
Les illustrations, c'est très important, parce qu'ici, elles sont de Rioux, mais il y a énormément d'illustrateurs, et tous les grands romans du 19e siècle sont illustrés. C'est une espèce de façon de montrer les gens, c'est déjà très cinématographique, surtout chez Dumas, hein, qui a une écriture de cinéaste, hein, donc c'est pour ça qu'on l'adapte tellement au cinéma. Donc, c'est un élément important, puis on a voulu d'ailleurs, avec comme ces livres qu'on fait depuis quelques années, on a voulu reconstituer l'atmosphère d'un livre qui sort au 19e siècle. Quoi. C'est ça notre idée, de revenir à l'idée des beaux livres.
Très belles images, mais le texte est le principal, Nicolas. Vous nous rappelez l'histoire de Monte Cristo ?
C'est donc le jeune Edmond Dantès, un marin plein d'avenir. Il est à Marseille, il va se marier avec la belle Mercedes Herrera aux cheveux noirs de jais. Il vient d'être promu en plus, mais ses amis sont jaloux. Alors ils lui tendent un piège, ils le dénoncent anonymement aux autorités et l'accusent d'être un espion au service de l'empereur déchu Napoléon qui est exilé sur l'île d'Elbe. Or, effectivement, lors de son dernier voyage, le capitaine du navire d'Edmond s'est brièvement arrêté sur l'île et il a rapporté une lettre adressé à un certain monsieur Noirtier. Mais le capitaine tombe malade et meurt pendant la traversée, mais il confie avant de mourir cette lettre à Edmond qui ignore de quoi il s'agit. Bref, Edmond est arrêté, pendant ses fiançailles. Présenté au procureur Villefort, ce procureur se rend compte qu'Edmond Dantès est complètement innocent, donc il s'apprête à le relâcher, mais lui demande quand même la lettre. Et quand il voit le nom sur la lettre, il pâlit. Ce monsieur Noirtier, c'est son père, en fait, c'est le pseudo de son père, un bonapartiste. Et ça, c'est pas bon du tout pour sa carrière. Alors, il décide de faire enfermer Dantès sans procès, sans avertir quiconque. Il le jette dans une cellule du château d'If, au large de Marseille.
Et comme je me souviens de ces pages tournées, quand j'étais jeune, non, c'est pas vrai, c'est là qu'il rencontre l'abbé Faria.
Exactement, qui lui enseigne la philosophie, les mathématiques, la logique, les bonnes manières, et qui lui révèle l'existence d'un trésor incroyable sur une île, l'île de Monte Cristo, au large de l'Italie. Dantès sort de prison, je vous dis pas comment si vous l'avez pas lu, il change de nom et commence la terrible vengeance du comte de Monte Cristo. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît, mais à l'époque, c'est une histoire inédite qui plaît beaucoup. C'est un best-seller quasiment tout de suite. Et le livre est même à l'origine d'une catégorie de romans, Claude Aziza.
C'est que c'est un roman populaire, c'est mélodramatique. Et c'est tellement important, hein, l'histoire d'un innocent qui finalement est accusé à tort et va se venger, qu'on va inventer vers les années 1860-70 un type de roman qu'on va appeler le roman de la victime. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont injustement accusés, qui vont être condamnés, qui vont revenir après de leur exil ou de leur prison et qui vont vouloir se venger.
Et ça continue de fasciner aujourd'hui.
Oui, et d'autant plus dans cette édition collector, un beau cadeau de Noël pour ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment, mais aussi pour les fans, ceux qui l'ont déjà lu.
Donc, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas chez Omnibus. Je ne connais pas le prix, mais ça fait bien 1,5 kg.
C'est 39 euros.
Ça vous tente, Chili Gonzalez? C'est beau, non?
Ben, j'aime bien les histoires de vengeance. Ouais. Toute ma vie, c'est une histoire de vengeance.
Ah bon? Vous vengez contre qui en ce moment?
Ben, tout le monde, mon papa surtout.
Ah, d'accord, s'il nous écoute. Merci beaucoup, Nicolas Caro. De la vengeance, vendredi, dimanche, dans votre émission littéraire La Voix et Livre?
Oh, ben, toujours un petit peu, oui. On se venge contre les pages, ensemble.
Dans un instant, jolie pirouette, notre deuxième indispensable avec Louise Bernard, mais d'abord musique avec Sting et Mélodie Gardot.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le second indispensable du jour avec Louise Bernard. Bonjour Louise.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Toujours en compagnie de Chil Gonzalez, évidemment. Louise, vous avez regardé pour nous le spectacle de Norman, ou Norman Tavo, humoriste aux milliards de vues sur YouTube. Oui, on est en milliards. Il a fait carrière sur scène également. Son deuxième spectacle va être mis en ligne demain sur Amazon Prime Video. Vous l'avez déjà vu, verdict?
Allez, mitigé. Pour l'instant, il manque à Norman le petit truc en plus, hein, celui qui le fera se démarquer dans ce milieu de l'humour qui déborde de gens talentueux. Alors, les textes sont bien écrits, hein, il les incarne plutôt bien sur scène, il sait varier le rythme, jouer avec les silences, les rires du public aussi. Mais justement, il a ce côté un peu trop bon élève avec un contenu surtout trop lisse.
Ah bon, de quoi il parle ?
Je vais vous donner une réponse très bateau, du quotidien. Il aborde plein de thèmes différents, son chat, prendre l'avion, le rap, les voyages, Tinder, être en couple et la dyslexie.
Moi, une fois, j'ai fait une mauvaise vanne sur scène sur la dyslexique. J'ai reçu une plainte par mail d'association de dyslexique. Je vous jure, j'ai lu le mail. Ces gens-là ne savent pas écrire. Ils font clairement pitié. N'empêche, c'est relou quand t'es dyslexique. Tu peux même pas écrire le nom de ta maladie. Dyslexie. On dirait que les médecins qui ont inventé ce mot, ils ont fait exprès pour les faire chier. Ils auraient dû appeler ça Toto, tu vois, c'est plus... Les mecs, je fais des fautes, je suis Toto.
Voilà, donc c'est une succession de petites réflexions assez courtes comme celle-ci. Le problème, c'est que les sujets sont souvent effleurés, jamais traités en profondeur, donc on reste un peu sur notre faim.
Mais attendez, il y a quand même des choses qui vous ont plu, Louise.
Oui, en fait, les passages qui marchent le mieux dans son spectacle, ce sont les extraits plus personnels, un peu trop rares, comme ce sketch où il questionne l'utilité de son métier de youtubeur.
Moi, ça fait 10 ans que je gagne de l'argent en faisant des blagues sur Internet. 10 ans que je gagne de la thune en faisant des blagues sur YouTube. Des fois, je me dis, putain, je suis vraiment un escroc, quoi. Tu sais, j'ai peur qu'un jour des gens arrivent chez moi en faisant Norman, désolé, faut rendre l'argent. Bon, ces gens existent, ça s'appelle les impôts. Mais c'est vrai que j'ai un métier un peu bizarre. Des fois, je me sens inutile. T'as des gens qui ont des métiers utiles. Je vois mon cousin, il est sapeur-pompier. Son métier, c'est extirper les victimes des décombres en cas de séisme. Et moi, je me dis, en cas de séisme, je fais quoi? Éventuellement, je peux glisser un petit iPhone entre les décombres et faire regarder ça, c'est ma vidéo sur la raclette. Mets un petit pouce en l'air avant de mourir.
Voilà, on aurait aimé qu'il aille un petit peu plus loin sur le sujet, car dès qu'il met un peu de lui dans le spectacle, en fait, c'est tout de suite plus original et sincère. Et cette obsession à vouloir faire une forme d'humour universel, bah, ça tombe un peu à plat. On va finir sur un autre passage de son spectacle que j'ai bien aimé quand même, qu'il aurait pu aussi développer davantage. Il évoque sa relation avec son père, veuf, qui drague sur Internet.
Et souvent, il m'envoie des photos des femmes à qui il parle pour me demander mon avis. Ouais, c'est glauque, ouais. Il a créé avec moi une complicité qu'on n'a pas envie d'avoir avec son père. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que maintenant, je connais mes goûts en mamie, quoi. C'est chelou. Moi, c'est plutôt cheveux mauves. Et si un jour il rencontre une personne, tu vois, il va la présenter, elle va faire bonjour, moi c'est Martine. Je vais faire, bah, je sais, c'est moi que t'es choisi, donc très chelou. Alors il leur parle sur un réseau social spécial retraité, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Facebook. Il leur parle dessus et sur Facebook, des fois il y a des fausses discussions qui apparaissent comme ça, tu vois, avec une fausse meuf qui te parle, qui fait ouais, je suis en sous-vêtement, viens, on parle. Ben, mon père répond à ça.
Bon, l'avantage, c'est que ça dure moins d'une heure et c'est à voir à demain, à partir de demain sur Amazon Prime Video, le spectacle de la maturité de Norman Tavo.
Merci, merci Luz Bernard. Est-ce que ça vous a fait rire, Chili Gonzalez?
Non.
Non. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Parce que moi, vous me faites beaucoup rire. Quand je vous vois au piano, quand je vous entends, vous avez un humour décalé, sous-jacent, qui est absolument indéniable. Vous-même, qu'est-ce qui vous fait rire?
Ben, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la, comment on dit en anglais, comedy, mm-hmm. L'humour. Et j'ai du respect pour ça parce que la réponse est involontaire. On rit ou on ne rit pas. Mm-hmm. On peut pas vraiment poliment dire oui, c'est drôle, parce que si on rit pas, ouais. Ça n'a pas marché. Donc j'ai le respect pour les humoristes, mais je suis assez d'accord. J'ai trouvé ça un peu superficiel et ça m'a pas fait rire. Donc je peux pas dire exactement où. Pourquoi ? Mais quand je ris, ça veut dire que ça marche.
Il y a quelque chose, je vais
j'aime
le défendre.
J'aime beaucoup rire et ça ne m'a pas fait rire.
Il y a quelque chose, je vais le défendre, c'est que les youtubeurs sont tellement observés qu'ils ne traitent quasiment plus aucun sujet crucial par peur des réactions sur les réseaux sociaux.
Oui, plus personne là, il est plus sur YouTube, sujets. Il est sur scène. Donc justement, on aimerait l'attendre dans un autre domaine et peut-être qu'il mette plus de personnalité dans son spectacle.
Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Luz Bernard. Chili Gonzalez, on a encore plein de questions à vous poser et plein de musique de vous à entendre.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
A Very Chili Christmas, c'est un jeu de mots avec votre nom, Chili Gonzalez, c'est votre disque de Noël, le premier album, c'est un CD. Vous êtes devenu un classique, je voudrais qu'on entende un morceau de vous qui se trouve dans l'album Piano Solo, c'est le titre Gogol. Pourquoi j'aurais voulu le faire entendre, plutôt le faire entendre aux auditeurs? Je l'ai entendu dans plein d'émissions ce titre, même dans des publicités. J'ai toujours cru que c'était du Debussy ou du Satie, et c'est de vous. Certains appellent ça du néoclassique. Est-ce que vous endossez le terme? Comment vous appelez cette musique?
Ben, c'est peut-être un peu plus romantique que classique. C'est du French Touch dans le sens compositeur français, comme vous dites, très influencé par Satie, Debussy et compagnie. Et en même temps, il y a un côté très russe. C'est pour ça que je l'ai nommé Gogol, qui est un de mes auteurs préférés, l'auteur Gogol. Et ce morceau, c'est le premier morceau sur mon premier album solo piano. Quand je l'ai fait, c'était un side project. Ouais. À l'époque, je faisais
un projet qu'on fait à côté.
Ouais. Ouais, c'était Electro Underground que je faisais à cette époque-là. Et j'avais peut-être peur même de montrer que j'étais formé en tant que pianiste et compositeur. Et là, avec l'album solo piano, et pas piano solo, il faut dire, avec solo piano, j'ai décidé de tenter de montrer ça. Je me suis dit, bon, peut-être mes fans de ma musique électro, ils vont apprécier ou non. Finalement, cet album a tout ouvert pour moi et j'ai trouvé quasiment un autre public, beaucoup moins underground. Et ça m'a permis de vraiment être de plus en plus moi-même. Et maintenant, je me suis dit, c'est là où j'ai compris qu'il ne fallait pas cacher le fait que je suis un musicien de temps en temps assez conservateur, bon élève, qui respecte la musique.
Et les normes de la composition.
Ben voilà, et en même temps de pas perdre mon côté plus punk rock et provoque, les deux peuvent coexister en même temps.
Et je vais recommander un album, on n'en passe pas ici parce qu'on n'a pas le temps, mais Chambers, qui est vraiment une absolue merveille. Titre que l'on passe de vous dans cette émission, duo, ça s'appelle Duo mais vous êtes trois, il y a vous, on entend votre voix, Philippe Catherine et la chanteuse Angèle.
Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre, le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern.
tempo, mais pas le même pattern, c'est presque une leçon de musicologie.
Oui, et à la fin, justement, je fais un petit masterclass, et c'est ça que Philippe, avec qui j'ai travaillé très longuement, j'ai produit son album Robot après tout avec Renaud Létang en 2005-2006, avec le fameux Luxor, j'adore. Et j'ai voulu participer à cet album, et Philippe, qui a toujours des idées un peu contre-intuitives, comme on dit en anglais, il a dit « Bon, au lieu de jouer du piano, je préfère que tu fasses un petit masterclass sur l'idée du pattern musical. »
Vous parlez des goûts musicaux et dont parfois on veut se démarquer des goûts de sa famille, de son frère. Votre frère Christopher, je l'ai découvert, c'est lui qui a composé ceci.
Ah non, non.
Il n'a pas composé ça ?
Il a fait le score de bande originale, il n'a pas composé la chanson.
Tant mieux, parce que sinon j'allais vous dire tout le mal que je pense de cette chanson. Je suis vraiment très très content que vous ayez été là. Il y avait Tristan Carnet qui était ici dans ce studio, le réalisateur. Il est producteur et il produit le show de Noël que vous allez faire pour Arte. De quoi s'agit-il ?
C'est A Very Chilly Christmas Special. Donc, j'ai pas pu faire des concerts, évidemment, pour des raisons évidentes. C'est triste, mais on a décidé de faire un concert avec des sketchs, avec des guests. Il y aura Jarvis Cocker, il y a Alison Wheeler qui, du quotidien, qui joue le Père Noël qui va au psy. C'est moi qui joue le psy. Et après, il y a un concert tout autour. Ça fait un peu de musique thérapie pour tout le monde avec cette année de merde.
Ouais.
Et ça s'appelle A Very Chilly Christmas Special sur Arte le 23 décembre.
Merci beaucoup, Chilly Gonzalez. Je rappelle ce qu'on entend, Very Chilly Christmas, disque de Noël, le vôtre. Nous, on se retrouve demain à 9h pour déjà la 300e de Culture Média. Nous serons avec l'animatrice Julie Andrieux pour son émission de découverte, Les Carnets de Julie sur la 3, qui a doublé ses audiences depuis septembre. Et puis là, on va être hors normé, orthodoxe, mais pas seulement, avec le violoncelliste vedette Gauthier Capuçon pour son album Émotion. Juste après le flash, c'est Anne Roumanoff. Je vous dis à demain. Merci beaucoup, Chilly Gonzalez.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.